Psaume 34, verset 7, et ensuite nous irons dans un texte, deux précisément, mais qui raconte la même histoire, des évangiles, où nous voyons la grâce de Dieu, la main de Dieu agir de façon totalement spectaculaire, et on s'arrêtera là-dessus un moment. Mais le psaume 34 nous permet de comprendre ce que nous allons lire ensuite, verset 7. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Amen. On va le personnaliser. « Quand le malheureux crie, pas juste un qu'on ne connaîtrait pas, mais imaginez, c'est vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Il y a au moins quatre choses à relever dans ce verset qui me semblent totalement essentielles. La condition du malheureux. Si quelqu'un se met à crier à Dieu, c'est précisément parce qu'il est malheureux, précisément parce qu'il a besoin. Et puis son attitude, puisqu'il crie à Dieu. Il aurait pu crier à la terre entière, mais il crie à Dieu. Il a décidé d'aller vers Dieu. Troisième attitude, c'est la bonne disposition, disponibilité, voyez comme vous voulez le dire, de Dieu, parce que l'Éternel entend. Et l'action, la manifestation de la miséricorde de Dieu, il le sauve de toutes ses détresses. Gardez bien ça à l'esprit, parce qu'il me semble que là, nous avons tous les éléments, quand ils sont bien combinés, quand ils sont bien assemblés, pour une réaction forte, une réaction spectaculaire. C'est ce que je vous disais. Et il y a un résultat, je pense, à la hauteur des attentes. Je veux croire que s'il y avait cet après-midi dans ce lieu un malheureux, s'il y avait quelqu'un qui était malheureux, alors je l'inciterais vraiment à crier à Dieu. À crier à Dieu. Parce que si vous criez à Dieu, sachez que Dieu entend et sachez que Dieu répond. Les deux choses vont ensemble. Il entend et il répond. Alors on parlera de délivrance, on parlera de guérison, on parlera de renouveau. Au travers de ce texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, et c'est maintenant que nous lisons à nouveau l'histoire de ce beau miracle qui a été accompli par Jésus. Dans Matthieu chapitre 15 et dans Marc chapitre 7, il est question du même texte. On les lira les deux parce qu'il y a des choses qui se complètent. Matthieu chapitre 15, verset 21. Matthieu chapitre 15, verset 21 nous dit ceci. « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. » Et voici une femme cananéenne, un autre passage dira syrophénicienne, qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Voulez-vous lire avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 7 et au verset 24 le même récit ? Marc, chapitre 7 et verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. On a affaire à une famille en détresse, et cette famille en détresse, on ne la trouve pas en Israël, parce que Jésus avait l'habitude de parcourir la Palestine, donc c'est en Israël, essentiellement, qu'il se trouve, mais là, il n'est pas en Israël, il est ailleurs, il a passé la frontière. Et c'est quand même agréable de se dire que Jésus a passé les frontières. L'Évangile passe les frontières. Il ne reste pas simplement confiné à certaines personnes à cause de leur culture, à cause de leur passé, à cause de leur héritage qui seuls seraient bénéficiaires de ces choses-là. Non, non, ça passe les frontières largement, sans aucun doute. Et Jésus a traversé la frontière et finalement il a été rencontré ceux qui vivaient, vous l'avez compris, dans d'autres contextes et avec d'autres cultures. Jésus aurait pu dire, ils vont pas me comprendre, ils saisiront pas le message, on n'a pas grand-chose en commun, on n'a pas beaucoup de choses à partager, donc je les laisse où ils sont. Si quelques-uns sont un petit peu interpellés ou ont soif de connaître Dieu, sans aucun doute, ils viendront me trouver. Ça n'a pas été la démarche. Jésus a passé la frontière. C'est lui qui a fait le pas, c'est lui qui s'est retrouvé près de ceux qui étaient incroyants, près de ceux qui étaient loin de cette réalité de l'Évangile. Si je faisais un parallèle, il vaut ce qu'il vaut, hein. Je dirais que la maladie non plus ne connaît pas les frontières. Et dans le fond, il y avait des malades en Israël, mais il y en avait également, vous l'avez compris, dans ces territoires du Liban, de Tyr, de Sidon, dans ces endroits-là, il y avait également des personnes malades. Et où est-ce qu'il n'y a pas de personnes malades? Il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas de personnes malades. S'il doit y en avoir, là où il n'y a personne. Mais sinon, on trouvera toujours, malheureusement, des gens atteints, des gens malades. Il semble que Jésus ait souhaité passer incognito. Ça, c'est rare. Hein. Ça, c'est rare pour être signalé. Il nous est dit que quand il est arrivé dans cette maison, il est rentré dans une maison désirant que personne ne le sût. Ça n'a pas fonctionné longtemps, puisqu'il nous est dit que cette femme, dont la fille était possédée, entendit parler de lui, et ainsi elle alla le trouver pour se jeter à ses pieds. Même s'il nous semble que Jésus peut quelquefois paraître un peu moins sur la place publique, c'est pas pour autant qu'il néglige les besoins des hommes, c'est pas pour autant qu'il ira se cacher. Il est dans une maison. Il n'est pas dans une grotte, hein. Il est dans une maison. Ça montre bien qu'il est près des gens. Il a été invité dans une maison, il est rentré dans cette maison. Et on imagine qu'il soit en train de discuter. Ils sont soit en train de parler, soit ils vont partager un repas. Bref, il est dans cette maison. Et puis, c'est à ce moment-là que cette femme viendra l'interrompre. La première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que Jésus n'a jamais fait de préférence. Et le ciel ne fera jamais de préférence. On a chanté que le ciel avait ouvert des fenêtres. On va essayer de les trouver. Hein. En tous les cas, elles doivent être grandes quand même. Hein. Certainement, elles doivent être grandes. Parce que comme il ne fait pas de différence, ben, tous ceux qui ont besoin de lui peuvent aller vers lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc on imagine qu'il pouvait y avoir du monde à la porte, il pouvait y avoir du monde qui vienne frapper à la porte parce que c'était le bureau des réclamations, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes intérieurs, moraux, j'ai des problèmes matériels, j'ai des problèmes avec ma famille, j'ai des problèmes au travail. Chacun a un problème, tout le monde a des difficultés. On l'a entendu dans le témoignage malheureusement, qui échapperait à ça n'est la différence. C'est que quelquefois, on s'est trouvé au bureau des pleurs, mais il n'y avait personne en face pour nous donner la réponse parce qu'il ne savait pas quoi dire. Tandis que quand on va vers Jésus, quand un malheureux crie, vous pouvez être sûr que l'Éternel l'entend. Vous pouvez être sûr que l'Éternel l'entendra et que l'Éternel lui répondra. Alors, elle a fait la démarche. Et parce que Jésus n'a jamais évité le contact, même s'il a semblé vouloir rester dans une maison de façon un peu plus tranquille, sans que personne ne le sût, que voulez-vous? Jésus est par là. Tu es sûr, c'est lui? Oui, oui, j'ai entendu dire qu'il passait par là. Attends, est-ce que tu es certain de l'information? Ça a fait le buzz en un rien de temps. Et comme elle était high-tech, la syrophénicienne, elle a bien vu qu'il se passait quelque chose sur la toile. Donc elle a mis son GPS et elle a trouvé la maison où était Jésus, certainement. Bref, elle a fait ce qu'il fallait, parce qu'elle voulait le trouver, elle voulait le rencontrer. J'ai envie de vous dire que si Jésus passe par là, ça se saura. Mais j'aimerais vous dire aussi, si Jésus passe, alors ne le laissez pas passer. Hein. Ne le laissez pas passer. Parce que s'il passe, c'est parce qu'il veut bénir, c'est parce qu'il veut faire du bien. Et cette femme a trouvé les moyens de l'approcher. Et dans le fond, c'est jamais trop compliqué. Jésus dira, venez à moi, vous tous, vous tous. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans le tous ? Peut-être. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et quand cette femme vient devant Jésus, ben le cas est très simple. Cette pauvre mère est totalement désespérée, et elle vient en disant ceci, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » On ne sait pas dans quel état était sa fille, mais on peut tout imaginer. On peut imaginer une fragilité psychologique, psychiatrique, des comportements étranges, une espèce de surexcitation, quelqu'un qui serait anormal dans toutes ses réactions. On parle quand même de tourment, on parle de cruauté. On n'est pas en train de parler d'un petit signal qui semble dire que la personne elle va pas bien. Ça semble quand même assez conséquent et je suis pas sûr que on ait à l'époque étudié de si près toutes ces maladies qui sont difficiles à assumer, qui se transforment, qui se cachent derrière des maladies. Mais là, précisément, il y avait quelque chose de diabolique. Alors il a fallu bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a pu faire ? J'en sais trop rien. Mais le fait est que quand elle vient vers Jésus, on comprend qu'elle n'a pas trouvé la solution quand même. À chaque fois qu'un malheureux a crié à Dieu, je pense que c'est parce qu'il a épuisé toutes les ressources. Je pense que c'est parce qu'il a été au bout. Je pense que c'est parce qu'il a gratté tous ses tickets et puis finalement il n'y a plus rien. Donc là, il va aller vers Dieu. Remarquez, il faudrait y aller avant. Mais on est un peu têtu, on est un peu sourd, on ne voit pas tout. Non, on ne comprend pas tout facilement. Donc on met du temps. Et j'ai envie de dire qu'importe le temps, si c'était aujourd'hui le bon moment, alors là, c'est le temps qui vient qui compte. Ce n'est pas le temps que vous avez perdu, c'est le temps qui vient. Et cette femme venant devant Jésus, elle y va, vous l'avez remarqué, avec beaucoup de respect. Hein. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Je ne suis pas bien persuadé qu'elle comprend ce qu'elle dit, hein, parce que ça, c'est une formule qui était dite en Israël, mais elle n'est pas de là, elle n'est pas de cet endroit-là, c'est une étrangère. Donc, est-ce qu'elle a entendu dire que quand on s'approche de Dieu, voilà de quelle manière il faut le faire, voilà comment il faut prier. Mais elle a bien retenu la leçon et elle le fait. Et je pense qu'elle le fait avec sincérité. Il y a tellement de choses que l'on a fait avec sincérité, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Quelqu'un disait un jour, on peut sincèrement se tromper. On peut être sincèrement dans l'erreur. Souvent, quand on parle de sincérité, on parle de vérité, hein. Mais là, précisément, on peut être sincèrement dans l'erreur. Alors, j'irai pas jusqu'à l'erreur, mais certainement jusqu'à l'ignorance. Elle ne savait pas tout. Alors, elle le dit avec ce qu'elle a cru comprendre. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et là, il ne lui dit rien, absolument rien. Et puis, quand il parlera, c'est pour être dur avec elle. Et là, elle va utiliser un autre langage, une deuxième fois. Et là, elle va lui dire, « Seigneur, aide-moi. Aide-moi. » On a l'impression que la carapace a explosé. « Seigneur, aide-moi. » J'aimerais que vous puissiez considérer Dieu comme votre ami, comme votre Seigneur, le Dieu qui a tout créé, mais un ami tendre et fidèle, qui est capable de bénir, qui est capable de faire du bien, qui est capable d'encourager. Cette femme, Elle sait peut-être pas grand-chose de cette religion-là, elle sait peut-être pas grand-chose de ce qu'était le judaïsme de cette époque, mais dans le fond, c'est pas grave, parce qu'une religion, ça guérit pas, une religion, ça sauve pas, quelle qu'elle soit, donc c'est pas grave. Qu'elle y aille en disant « fils de David », elle aurait pu, si elle l'avait apprise par cœur, dresser toute la généalogie, peu importe, c'est pas ça qui va la guérir, c'est pas ça qui fera que Jésus sera attentif à sa prière. Ce qu'il regarde, c'est le cri dans le cœur. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que ce n'est pas vrai, pour vous qui êtes croyants, est-ce que ce n'est pas vrai que c'est quand vous êtes arrivé au bout du bout du bout que vous avez prié comme jamais ? Comme jamais. Prêt à crier à Dieu en disant « Mais non, il faut que ça s'arrête, stop !» C'est fou, hein, attendre l'extrémité pour en arriver jusque-là. Cette femme est à bout, hein. Elle est au bout. faut qu'il se passe un miracle, faut qu'il se passe quelque chose. Sûrement, ça ne peut pas continuer comme ça. J'aimerais vous encourager, quand c'est trop dur, allez vers Christ. Quand c'est trop compliqué, allez vers lui. Quand c'est accablant, allez vers lui. Quand vous craquez, allez vers lui. Quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes dépassé, quand il n'y a rien à comprendre dans tout ce qui nous arrive, allez vers lui, allez vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Quand un malheureux crie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel entend. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il le sauve de toutes ses détresses. Quel que soit votre besoin, quel que soit le degré de la détresse, une détresse, c'est une détresse. Et quand on est en détresse, il faut à tout prix qu'il se passe quelque chose, il faut être rassuré, il faut être pris en main. Eh bien, c'est ce que Dieu va faire. Il va vous prendre en main. Il va se charger de vous. Il va s'occuper de vous. Manifestement, le combat va être acharné. Ça ne va pas être si simple. Je vous rappelle qu'on est dans une maison, à moins qu'il en soit sorti. Mais visiblement, on nous dit quand il est rentré, on ne nous dit pas quand est-ce qu'il est sorti. Alors, je le laisse dans la maison. Peut-être qu'il y est encore dans cette maison. Ce que je remarque, c'est qu'elle va crier. Elle va crier. Ben, c'est sûr que quand ça fait mal, on crie. Donc, elle crie. On est dehors, on est dedans, peu importe, elle crie. Elle crie et puis Jésus ne lui répond rien. Il n'y a qu'au bout d'un moment que les disciples viennent vers Jésus et ils lui dirent avec instance, avec insistance, ils ont vraiment appuyé dessus, « Écoute, renvoie-la car elle crie derrière nous. » Ça signifie qu'elle a crié, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais manifestement, Jésus n'a rien dit, mais elle a dû continuer. Elle a dû continuer. Pour qu'au bout d'un moment, les disciples disent « on n'en peut plus, tu ne peux pas lui dire de s'en aller ». Bon, ils étaient certainement dans l'idée que Jésus ne voulait rien faire pour elle, puisqu'il n'avait rien dit, il n'avait rien fait. En général, il répondait du tac au tac. À chaque fois que quelqu'un s'est approché de Jésus, la réponse, elle était quasi immédiate. Relisez tous ces miracles des évangiles, c'est quasiment instantané, voire même quand il a entendu quelqu'un qui criait à lui, dans ces moments-là, il a même été capable de s'arrêter et de dire « appelez-le », en parlant notamment de Bartimée, cet aveugle au bord du chemin, ou d'autres cas, mais il a toujours une réaction très rapide, tandis que là, ça tarde. Mais c'est pas grave, ou en tous les cas, ça peut être grave, mais le fait est qu'elle crie. Elle supplie, aide-moi, on imagine qu'est-ce qui devait se passer dans cette maison. Je lisais ces jours-ci un ouvrage du petit-fils du fondateur de l'armée du salut, Monsieur William Booth, c'était le nom de son grand-père, et lui a le même nom, plus le nom de son père, puisque c'est par sa maman qu'il était le petit-fils. Et il explique comment il a été baptisé du Saint-Esprit. On est en 1903, 1904, quelque chose comme ça. Il explique le baptême de feu qui est tombé sur lui. Il n'avait que 15 ans à cette époque-là. Plus tard, il s'est engagé dans le service de Dieu. Ils ont fait des campagnes d'évangélisation incroyables. Il racontera même qu'il a travaillé parmi les enfants et dans une grande réunion où il y avait beaucoup d'enfants, il y en a eu plus de 160 qui ont été baptisés du Saint-Esprit de façon spectaculaire. Il explique son baptême de l'Esprit, mais c'est incroyable. Ces jours et ces nuits qu'ils ont passés dans la présence de Dieu. À tel point qu'à un moment donné, ça faisait tellement de raffus qu'il y a des voisins qui sont venus pour dire « Écoutez, la nuit, arrêtez-vous, parce qu'on n'en peut plus. » Sauf que s'arrêter, c'est pas facile. Alors le père, qui voulait pas se laisser décourager, il s'est dit « Si on s'arrête, il ne faudrait pas que ça revienne plus. » Donc il était content de pouvoir continuer, puisqu'à chaque fois, de nouvelles personnes venaient, elles étaient baptisées du Saint-Esprit, systématiquement, elles parlaient en langue, il y avait des convictions de péché, des prophéties, ça durait des heures. Eh bien, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution? Il a pris des couvertures, il a calfeutré les fenêtres et les portes, et il a dit comme ça, on n'a embêté plus personne. Moi, je suis pas très sûr, vu à l'époque les constructions, mais bon, toujours est-il qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il y avait le feu, ça faisait du bruit. Et eux, à l'intérieur, ça les dérangeait pas. Ça dérange toujours, le bruit. Ceux qui comprennent pas ce qui se passe, ceux qui ont pas forcément... un cœur un petit peu interpellé par la détresse, par la douleur. Et quand cette femme crie, les disciples auraient dû prendre en considération quand même ça. Elle a une fille qui va pas bien. Visiblement, c'est une catastrophe à la maison. elle te demande de faire quelque chose à la limite. Fallait-il aller vers Jésus pour dire « Seigneur, exauce-la » et on n'en parle plus, hein? Non ? Bon, je ne sais pas, vous êtes vivant ? Ouais ? Plutôt que de dire « Tu ne peux pas lui dire de partir », ils auraient pu lui dire « Écoute, les miracles, c'est facile pour toi, fais-le » et comme ça, elle s'en va, elle est contente et nous aussi. Non ? Même pas ça. Même pas ça. Renvoie-la, renvoie-la. Elle crie, elle nous fatigue. C'est quand même incroyable. Comme les silences, les animosités, les mots blessants. Rien qui change, rien qui bouge. Comme ça peut être sujet à interprétation, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui a dû se passer dans la tête de cette maman ? Jésus qui lui dit rien. S'occupe même pas d'elle. Lui adresse pas un mot. Vous imaginez dans quel état vous allez vers celui qui entend, vers celui qui exauce, vers celui qui fait des miracles, vers celui dont finalement la réputation l'a précédé, puisque on a su que Jésus était par là et cette femme y va. Donc évidemment, elle ne va pas vers un inconnu, même si elle ne l'a jamais rencontré réellement, elle sait qui est Jésus. Et là, vous allez prier, vous allez vers Dieu, vous allez vers celui qui peut guérir, et là, silence, rien du tout. Mais c'est affreux. C'est affreux. Il n'y a rien de pire que cela. Tellement de choses qui peuvent nous passer dans la tête. Eh bien, c'est normal, parce que je ne suis pas de sa race, je ne suis pas de son pays, je ne suis pas de son peuple. Alors, il n'y a rien pour moi. Ce n'est pas ma religion, alors je comprends. Il n'y en aura que pour sa religion et pas les autres. Ou alors, je ne le mérite pas, j'ai trop fait de tort, j'ai trop fait de mal, je n'ai pas été comme il fallait. Mais qu'est-ce qui peut passer par notre tête, travailler dans notre cerveau ? Qu'est-ce qu'on est capable d'interpréter des situations ? C'est fou. Cette femme, je ne sais pas si elle commence à paniquer ou à se décourager, mais le fait est qu'elle crie toujours. Ça ne sert à rien d'interpréter les silences de Dieu comme ses actes. Ça ne sert à rien d'imaginer ce qu'il a voulu dire quand il n'a rien dit. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre pourquoi il nous arrive telle et telle chose. Cette femme, j'insiste, elle pouvait expliquer tout ce qu'elle savait. Mais quant à expliquer le pourquoi de ce qui nous arrivait, de ce qui lui arrivait, c'était impossible. Elle savait dire que sa fille était tourmentée par un démon, mais pourquoi on en était arrivé là ? Visiblement, c'est plus compliqué. Il y a des tas de situations. Et Dieu ne nous demande même pas, Dieu ne nous demande même pas d'essayer de les expliquer. Il nous demande simplement de les lui apporter. Simplement de les lui apporter. Et lui va s'en charger. Lui va s'en charger. Alors cette femme, elle n'explique pas ce silence, elle n'explique pas l'animosité des disciples qui veulent qu'elle soit chassée de la maison, qu'elle parte. Ben, c'est pas grave, je fais du raffut, ça peut en déranger beaucoup, mais moi j'ai un besoin. Donc elle s'accroche à cela. Quand le malheureux crie, et si vous êtes malheureux, alors criez. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Que votre prière soit comme un cri de... Parce qu'il faut que, il faut l'exprimer, il faut le dire à Dieu, que votre souffrance, que votre détresse, que votre prière soit comme un cri adressé à Dieu. Finalement, elle s'accroche, elle y croit, et elle va se battre. Après, elle va entendre quelque chose, il valait mieux rien entendre qu'entendre ça, hein, puisqu'à un moment donné, Jésus finalement va s'adresser, je ne suis même pas sûr qu'il s'adresse à elle, il doit s'adresser un peu à tout le monde, hein, vu la tournure de la phrase. Et il lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comprenne qui pourra. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors elle vient. Et une fois de plus, elle se jette à ses pieds. Et là, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. Seigneur, aide-moi. Secours-moi. Le texte exact, aide-moi. Aide-moi. Fais quelque chose là. Moi, j'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Je suis coincé, je n'ai pas de solution. Et loin d'être prise par la main, l'air de dire, t'inquiète pas, je t'ai exaucé, je t'ai entendu, allez, ça s'arrête maintenant. Non, Jésus enfonce un peu plus cette femme en disant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Là, c'est un coup de poignard. Hein. Déjà, vous n'en avez pas assez, on vous dit ça par derrière. Déjà, ce que les disciples avaient fait, ce n'était pas très sympathique. Mais là, c'est encore pire. C'est fou comme quelquefois, une mauvaise nouvelle ne fait que précéder une autre mauvaise nouvelle. Et on aimerait qu'une bonne nouvelle suive une mauvaise nouvelle. On aimerait bien qu'à un moment donné, ça change, que le cycle change, que ça se tourne autrement. Et puis des fois, ça ne marche pas. et on ne comprend pas, une mauvaise nouvelle, et puis encore une, et puis encore une. À peine on sort la tête de l'eau, pouf, il y a quelqu'un qui vient et qui vous met la tête sous l'eau, bien, bien, à cause encore d'une difficulté, d'une peine. Mais là où la victoire est belle, c'est que cette femme avait compris que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et quand une malheureuse crie, eh bien, l'Éternel forcément l'entendra. Et l'Éternel forcément la délivrera de sa détresse, de sa souffrance et de sa peine. Alors quand elle entendra ces mots, on comprend que le pain des enfants, c'est le temps, la grâce accordée aux Juifs, les enfants, peuple choisi de Dieu, tandis que les petits chiens, c'était les autres. Voilà, avec un peu de mépris des autres. C'est comme ça que les nations se comparaient souvent, et souvent le Juif s'est vu au-dessus. L'apôtre Paul dira « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui prétend être le directeur de conscience des autres, toi qui dis de ne pas faire, tu fais, etc. » Bref, il les ramène un petit peu sur terre, tous ceux qui se croyaient supérieurs. Néanmoins, l'insulte n'est pas si pire que cela, comme diraient les Canadiens, pas si pire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas dit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Mais il a dit « aux petits chiens ». Il y avait quelque chose de différent dans cette expression. Le chien était considéré comme un animal impur, mais on y voyait autre chose dans l'expression « petit chien ». Y a-t-elle vu là quand même une porte qui n'était pas totalement claquée, qui n'était pas totalement fermée ? Certainement. Vous savez, quelquefois, on a du mal avec les coutumes et les cultures. Je lisais dans une revue insolite que vous avez un des meilleurs footballeurs du monde, monsieur, il s'appelle Messi. Voilà, Messi. Et il a été dans un pays arabe, dans un pays du Golfe, et il a offert un cadeau, alors ça doit être un premier ministre ou un président, il a offert ses chaussures à crampons. Malheur! Vous n'offrez jamais des chaussures dans les pays arabes. C'est une insulte. C'est une insulte. Et d'ailleurs, il y a quelques années, dans un parlement, il y avait une dispute entre certains, et l'un a pris sa chaussure, il l'a lancée. Ça avait fait le tour du monde. Mais vous pouvez aller en prison, voire être condamné à mort. C'est la pire insulte. Le pauvre, il croyait avoir fait un acte de charité, de bienfaisance, parce que rien que sa paire de chaussures, ça doit valoir des centaines de milliers de dollars. Donc lui pensait avoir fait quelque chose de bien. Ça s'est retourné, mais d'une façon incroyable. Il a été menacé. On a tout dit sur le pauvre homme. Comme quoi, les cultures, les coutumes. Donc là, ne vous méprenez pas. Il y avait quelque chose sûrement de culturel et de pas très agréable, de pas très gentil. Mais moi, j'y vois la volonté de Jésus de voir jusqu'où cette femme est capable d'aller. Jusqu'où est-ce que vous serez capable d'aller cet après-midi ? Jusqu'où vous serez capable de vous abaisser ? Jusqu'où vous serez capable de vous abaisser ? Ça me fait penser à cet homme qui, un jour, était en train de discuter avec quelqu'un. Il avait une paire de lunettes. Il discutait avec quelqu'un. « Ça va, monsieur ?» Et l'autre, sans rien lui dire, lui a mis une immense gifle. Donc les lunettes, elles ont volé par terre. Et lui s'est dit, mais il est fou lui ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Alors il récupère ses lunettes et il revient à nouveau vers lui. Et il dit, mais monsieur, il n'a pas le temps de dire autre chose. Boum, une deuxième. Et là, en lui-même, il s'est dit, bon, une, d'accord, deux, je ne suis pas d'accord. Et là, il l'a calmé. Il l'a calmé, c'était trop. Hein. C'était trop. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à s'humilier ? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à tout entendre ? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à tout supporter ? Le fait est que cette femme, elle a eu une réaction incroyable. Elle s'est tournée vers Jésus en lui disant « D'accord, d'accord, d'accord. Même si je ne suis qu'un petit chien, peut-être qu'une miette va tomber de la table. Et moi, une miette, ben, je crois que ça va me suffire pour guérir ma fille. » Quand il y en a qui en voulaient des tonnes, n'est-ce pas ? Elle n'en voulait qu'une miette. Savez-vous qu'un seul mot, qu'un seul regard, qu'un seul geste de la part de Jésus et l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. L'affaire est entendue. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Un seul mot, un seul geste, un seul regard, une seule intention et c'est suffisant. Alors on comprend la réaction de Jésus. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et vous avez compris qu'à l'heure même, l'enfant a été guéri, elle s'en est rendue compte quand elle est rentrée à la maison. Elle a trouvé sa fille tranquillement couchée, qui dormait paisiblement. Quel changement ! Ça ne devait pas être comme ça. Depuis longtemps, ça ne devait pas être comme ça. Alors la victoire a été complète. C'est une pécheresse, reconnaissez cela, c'est une pécheresse qui a été exaucée. C'est une femme de foi qui a été exaucée. C'est une femme inconnue que Dieu honore. Elle n'est pas juive, elle est pas, on ne sait pas qui c'est, elle n'a pas de titre, elle n'a pas d'argent. Elle a... Bref, on ne sait rien sur elle. Mais elle a su s'humilier et elle a tout accepté. Elle avait compris, cette femme, que son combat n'était pas humain, mais son combat était spirituel. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Le démon la tourmente, disait l'évangile de Marc. Il faut qu'il se passe quelque chose. J'aimerais vous dire, en terminant ces moments, cette parole de l'apôtre Paul aux Romains, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, sauvé de toutes tes détresses. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Cerise sur le gâteau, parce qu'il y en avait une. Cerise sur le gâteau, la guérison a été instantanée et la guérison a été même à distance. Vous n'avez que deux cas dans les évangiles où c'est arrivé comme ça, à distance. Dans l'autre cas, quand le papa est rentré à la maison, il a demandé « Mais à quelle heure l'enfant a été guéri ?» Et on a pu lui dire exactement l'heure et finalement il s'est souvenu que c'était à ce moment-là que Jésus lui a dit « Va en paix, ton enfant vit. » Dieu est capable de faire des choses étonnantes, extraordinaires. Alors je ne sais si vous êtes en détresse, peut-être. Je ne sais si vous êtes une mère ou un père désespéré, sans doute. Je sais que le combat est acharné, mais je crois aussi que la victoire, elle peut être complète. Cette femme l'a vécu. Cette femme l'a expérimenté et ce serait bien que vous aussi vous puissiez l'expérimenter. Souvenez-vous, elle n'avait rien de plus que vous, elle était pécheresse, elle n'avait pas beaucoup plus de capacité que vous, sauf la foi, mais la foi comme un grain de sénévé, ça suffit, comme une petite graine de moutarde, c'est suffisant. Elle avait la foi et puis elle ne connaissait pas bien Dieu, mais manifestement Dieu la connaissait bien. Et c'est ça qui compte, Dieu vous connaît si bien, Dieu vous connaît tellement. Alors laissez-le faire. Elle a su s'humilier, elle a tout pris en pleine figure, elle a tout accepté. Elle a simplement demandé à Dieu, « Je crie à toi, exauce-moi. » Et l'Éternel l'a entendu, et l'Éternel a guéri sa fille. Cette vie a été changée. Quand je parlais tout à l'heure de choses qui se mettent ensemble, d'éléments qui, quand vous les assemblez ensemble, vont provoquer une réaction extraordinaire, une réaction extrêmement forte. Il me semble que dans cette famille, on a connu la délivrance, on a connu la guérison et on a connu aussi un renouveau. Vous imaginez les fêtes de famille, vous imaginez le lendemain, vous imaginez le surlendemain, vous imaginez l'avenir de cet enfant, etc. Vous imaginez plein de choses. Ça a été un renouveau complet. Eh bien, c'est ce que Dieu veut faire encore cet après-midi. Alors, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur sa bénédiction. On va lui demander d'agir encore, on va lui demander de se manifester. On va croire qu'il va exaucer nos vœux, qu'il va exaucer nos prières.